RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de So Wimbledon 2026, des 12, comme disent les Anglais. 12e jour de compétition. Jeudi, on a découvert l'affiche de la finale féminine hein, qui opposera deux Tchèques, vous le savez, Karolína Muchová et Linda Noskova, qui ont la particularité d'être des miraculés. Bon, le terme exagéré, parce que, mais elles ont sauvé balle de match, toutes les deux, lors de cette quinzaine. Noskova, c'était un peu plus tôt, c'était contre Chirchtea, et vous avez tous vu sûrement la balle de match sauvée par Muchová, ou là, plutôt plus précisément, la balle de match vendangée par Coco Gauff dans ce fabuleux tie-break, super tie-break du troisième set. On a l'affiche masculine, et elle opposera tout simplement la tête de série numéro 1 à la tête de série numéro 2. Voilà, tout est dit, j'ai même pas la peine de vous donner l'identité des deux joueurs, hein. Vous connaissez suffisamment le classement ATP pour cela. Oui, Jannik Sinner affrontera Sacha Zverev, une affiche attendue. Il n'y a pas eu de grosses surprises aujourd'hui, on est même un peu resté sur notre faim à l'issue de ce vendredi soir, parce que on a eu deux matchs en 3-7, deux matchs assez rapides, deux matchs, je ne veux pas dire insipides, mais il n'y a pas eu d'émotion parce qu'on a tout de suite compris que dans chaque demi, il y en avait un qui était au-dessus de l'autre. Alors ça a mis un peu plus de temps à se dessiner pour Sacha Zverev. On va commencer par la demi-finale numéro 1 d'ailleurs, qui opposait donc l'Allemand à Arthur Ferry. Arthur Ferry était un peu rincé, comme on dit, à la fois physiquement et mentalement. Et peut-être que peut-être qu'il a moins bien dormi que d'habitude et malgré des efforts, malgré un courage évident, il a dû rendre les armes donc en 3-7, 7-6, 6-2, 6-4. Il aurait fallu qu'il prenne la première manche et malheureusement ça n'a pas été le cas. Il a été breaké très vite, il a eu la bonne idée de débreaker dans la foulée Sacha Zverev avec notamment une contre-amortie croisée qui a fait lever le stade. Mais voilà, c'est la seule fois où il a fait lever le stade parce que ensuite les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu. Mais dans le tie-break, ça a été un tie-break catastrophique pour le franco-britannique puisque il a commencé par une double faute. Ensuite, il y a eu une petite erreur, 3-0, 5-0, 6-0. Il a pris 7-0. Il a pris 7-0 et là, on avait compris que Sacha Zverev ne lâcherait pas sa proie. Il était au-dessus dans tous les domaines. Il frappait beaucoup plus fort la balle. Alors évidemment, au service, ça, c'est pas nouveau. Coup droit très très sûr hein, du côté de l'Allemand. Et puis donc, il a eu finalement un parcours relativement facile dans ce Wimbledon 2026 parce que, à l'exception peut-être d'un match compliqué au premier tour contre Alexander Blok, où il a été vraiment chahuté 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. Mais voilà, on se rend compte que Sinner lui aussi avait été chahuté. Et je pense que c'est dû à l'herbe. L'herbe qui est toute verte, ça provoque pas mal de surprises. Il faut s'habituer. Mais plus le gazon devient râpé et plus la hiérarchie est respectée. Je vous l'avais dit aussi en cours lors d'un podcast précédent, Sacha Zverev a eu la chance, entre guillemets, de bénéficier de la blessure de Taylor Fritz, qui était sa bête noire sur herbe en plus. Fritz qui s'est blessé au bout de 3 jeux lors du quart de finale, donc ça a vraiment facilité sa tâche. Mais bon, il n'y a pas de secret. Vous gagnez votre premier grand chelem et ça change votre vie. Et on l'a tout de suite ressenti, Zverev est beaucoup plus serein, il déroule son tennis, il a plus peur de commettre les fautes, il y va plus franchement. Et voilà pourquoi donc il a décroché son billet pour la finale sans trop de soucis. On note aussi, et ça c'est une performance remarquable, que ça y est, il a atteint les quatre finales des Grands Chelems et c'est pas donné à tout le monde puisque la liste, elle n'est pas si énorme que ça. Hein. Jim Courier, Carlos Alcaraz, André Agassi, Sinner, Nadal, Lendl, Federer, Djokovic, Edberg, Murray. Il manque plein de noms. Hein. Il manque Sampras, il manque McEnroe, il manque Borg. Vous voyez, donc c'est pas si facile d'atteindre ce cercle restreint. Et si j'ai commencé par Courier, c'est parce que Jim Courier, il a effectué le grand chelem. Donc d'atteindre les quatre finales à sa 19e tentative. C'est un record. Personne ne fera mieux, je crois. Alcaraz est juste derrière avec 20. Et si j'ai fini par Zverev, c'est pas un hasard non plus, parce que c'est le record du monde de la persévérance. C'était son 42e grand chelem. Mais voilà, 42e a été le bon. Donc première finale à Wim et ça complète donc sa série. Donc Sacha Zverev qui va donc tenter de doubler Roland-Garros, Wimbledon. Ça s'annonce pas simple, mais en tout cas, ça déjà, il acte son retour à la place de numéro 2 mondial. Puisque, bon, on le sait, Alcaraz n'est pas venu, et comme il avait une finale à défendre, voilà, il perd beaucoup de points. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux qu'Alcaraz a repris une sorte d'entraînement, mais alors très léger, en tenant donc la raquette avec la main droite, et ça, donc, c'est l'info numéro 1. Il a eu le feu vert de son équipe médicale, mais que ça va prendre du temps. Hein. Je pense qu'ils vont y aller mollo-mollo, comme on dit, très doucement. Ils ne veulent pas provoquer de rechute. Et c'est pour ça qu'ils ne figurent pas dans la liste des engagés pour le Masters 1000 canadien, l'Open du Canada, qui se déroule fin juillet. Donc ça veut dire qu'au mieux, on le reverra, Carlitos, à Cincinnati. Et je dis au mieux, on touche du bois, parce qu'il a manqué à ce tournoi. Le tournoi était assez fade. Il y a eu évidemment l'incroyable parcours d'Arthur Ferry, on va y revenir. Mais c'est vrai que Zverev a profité de l'absence de Carlitos pour se frayer un chemin jusqu'à la finale, alors que c'est un garçon qui n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale ici, sur le gazon londonien. Alors, un mot sur Arthur Ferry, forcément. Les 15 000 spectateurs n'avaient Dieu que pour lui. La plupart qui avaient pris leur billet 6 mois, je pense, ne connaissaient pas l'existence d'Arthur Ferry, parce que bon, moi je les vois, les gens qui viennent au stade, c'est surtout des personnes qui ont la cinquantaine, soixantaine, bon, qui, par mon avis, suivent ça de près, qui veulent juste vivre une belle journée à Wimbledon, parce que c'est un cadre extraordinaire, vous lavez la tête, il y a des fleurs partout, vous pouvez faire votre petit pique-nique sur les bancs, il y a un côté magique, il faut faire une fois Wimbledon dans sa vie, c'est ce que chaque Anglais doit se dire. Donc Arthur Ferry, bah, il a bien représenté son pays, hein. Ça, il n'y a pas de doute, demi-finale, c'est extraordinaire pour lui, mais là il était un peu tendre, je pense qu'il était rincé aussi, il l'a dit, il a fallu qu'il digère tout ça, en plus il a eu des matchs durs durant toute la quinzaine, donc voilà, il a touché ses limites, mais bon, que dire, il est 114e, mais lundi matin il sera 36, vous imaginez. Le bond en avant, c'est juste extraordinaire. Ça veut dire que déjà, il se projetait, il va pouvoir participer à tous les Masters 1000, à l'exception du Canada, puisque la liste est déjà tombée, donc il n'est pas dedans. Va-t-il y aller pour faire les qualifs? C'est pas sûr, parce que je pense qu'il a besoin de souffler. Mais déjà, il se régale d'avance, parce qu'il va faire son premier US Open. Il n'a jamais joué, ni même les qualifs de l'US Open. Après, il y aura l'Asie. Là aussi, il va découvrir le cadre du Masters 1000 de Shanghai, ensuite Paris, la Défense, puis l'Australie, parce que l'Australie, je rappelle que cette année, il était passé par les qualifs. Donc ça change sa vie, ça change son compte en banque, puisqu'il prend 1 million d'euros en faisant la conversion. Mais maintenant, il va falloir prendre une décision, parce que il y avait une journaliste anglaise qui était visiblement bien informée, qui, en conf de presse, a abordé un sujet assez drôle, à savoir que il aurait dû être en vacances en Grèce. Et écoutez donc cet échange, je vous le traduis après.
But I heard that you were supposed to be on holiday right now. You maybe missed out on holiday by getting to the Wimbledon semi-finals. Is that true?
Yeah, I was always planning on having a holiday after Wimbledon before the US. And yeah, I was meant to be coming back from holiday today. So that's obviously going to change. But yeah, I definitely need some time off.
Where were you supposed to have gone?
I was meant to be going to Greece with some friends. We'll see if that's still on the cards. I don't know.
Didn't they go without you? Or?
Yeah, I think it's a leading question. But yeah, one of my friends went ahead of time, hoping I would lose. he came back 2 days later and was supporting me.
Oui, alors il raconte qu'effectivement, il avait prévu de prendre des vacances après Wimbledon. Donc, comprenez, dès qu'il est sorti du tournoi. Donc ça aurait dû être en gros la semaine dernière, puisque bon, quand t'es wildcard, effectivement, tu t'attends pas à faire demi-finale. Hein. Et finalement, donc il devait y aller avec des potes, il devait aller en Grèce. Il a révélé qu'un de ses potes avait pris de l'avance en priant presque pour qu'il perde très vite afin qu'Arthur le rejoigne. Et puis quand ce pote a vu le parcours d'Arthur Ferry, bah, il a fait demi-tour et il est resté que 2 jours en Grèce pour venir encourager son copain dans la boxe des joueurs. Donc Arthur Ferry n'exclut pas d'aller en Grèce quand même, parce que je pense qu'il a besoin, de, comme il l'a dit, de recharger les batteries. C'est vraiment indispensable. Il ne faut surtout pas qu'il se précipite. Il faut qu'il digère tout ça, parce que quand on découvre les grands matchs, les grandes atmosphères, il faut faire attention à son mental, à son corps. Et donc là, je pense qu'il a besoin absolument de couper complètement. Il ne faut plus voir un journaliste, il faut couper le téléphone. À ce propos, Sacha Zverev l'a redit, il coupe son téléphone durant chaque grand chelem. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment il communique avec son staff, mais il l'a redit, il est en contact avec personne. Voilà, coupe le téléphone, et ben c'est sûrement le secret de la réussite. Donc, revenons à Arthur Ferry, on le reverra avec grand plaisir à l'US Open, et j'espère que cette fois-ci, le protocole sera un peu plus assoupli et qu'on pourra aller échanger avec lui en français pour qu'il nous raconte un peu comment sa vie a changé. Donc ce sera un prochain grand rendez-vous pour lui, allez, on va dire Cincy, mais surtout donc finalement New York. Il va découvrir ce merveilleux stade qu'est Flushing Meadows, et pourquoi pas jouer une night session. Pour lui ce serait top, mais en tout cas ça change sa vie. Sacha Zverev a eu des mots très sympas pour lui, Novak Djokovic aussi. Mais attention, il va falloir confirmer tout ça, parce que sinon la presse britannique, qui est souvent terrible, ne va pas le rater. Ils ont un exemple, c'est Emma Raducanu, qui avait remporté l'US Open à la surprise générale en sortant des qualifs. Ensuite, on sait qu'elle a éprouvé beaucoup de difficultés donc à confirmer. D'ailleurs, elle n'a pas pu disputer le championship cette année. Les tabloïds l'ont repéré avec la fameuse botte pour marcher, parce que visiblement elle souffre donc du pied droit. Ça va être intéressant de voir comment Arthur Ferry, qui a la tête bien faite, va digérer tout cela. L'autre demi-finale, c'était le blockbuster, donc c'était surtout la revanche de la demi-finale de l'Open d'Australie, où Yannick Sinner était tombé de très très haut avec cette défaite en 5-7 face à Novak Djokovic. Il avait envie de montrer que c'était lui le patron, et il l'a montré avec force et vigueur. 6-4, 6-4, 6-4, c'était assez violent, parce que Novak Djokovic, je l'ai rarement vu autant acculé sur le reculoir, parce que la puissance de l'Italien l'a totalement désarçonné. En plus, et ça c'est intéressant, Yannick Sinner a servi l'acier. Pourtant Djokovic passe pour être le meilleur retourneur du monde. Alors c'est marrant, parce qu'une question en conférence de presse lui a été présentée comme ça, et il a rectifié, dit « was », c'est-à-dire que j'étais le meilleur retourneur du monde. Il faisait allusion au stade d'aujourd'hui où il n'a pas existé. Il a eu une seule balle de break, une seule balle de break. Pour un mec comme Djoko, c'est vraiment extraordinaire, dans le sens extraordinaire. Et elle a été effacée d'un ace, c'est pas un hasard. Et il a vraiment insisté en conférence de presse sur la transformation du service de Sinner. Il a dit depuis qu'il a changé sa technique, il a un service qui est juste extraordinaire, quoi. Il trouve toutes les zones, ça va très très vite. La deuxième balle est extrêmement profonde. Oui, il a carrément dit son service est inattaquable. Donc ça veut bien dire qu'il a été troublé par la mise en jeu de l'Italien, donc qui a fait d'énormes progrès, mais on n'est pas surpris. C'est un tel perfectionniste. Je crois que le moment clé, ça a été sa défaite en finale de l'US Open contre Alcaraz en septembre dernier, où il avait été très déficient au service, avec des pourcentages horribles, et il s'était fait agresser. Donc dans sa tête, c'est plus jamais ça, quoi. Je ne peux pas me permettre, moi, Yannick Sinner, d'être une cible si je passe pas ma première. Donc il a fait d'énormes progrès. Et Djoko s'en est aperçu, et Djoko n'a rien pu faire aujourd'hui, une seule balle de break. Rendez-vous compte, c'est terrible. Alors je propose aussi, parce que c'était le grand moment de cette journée, la conférence de presse de Novak Djokovic, qui est toujours excellent, surtout après une défaite. C'est pas un mec qui se cache. Quand on pose les questions, il est transparent, il y répond. Je vous propose une petite pastille de 25 secondes. Je vous la traduis derrière, pour avoir une idée du ton des déclarations du Serbe.
It was a good old blowout. Of course, there's always a question, you know, how far you want to go, what you want to play, how you want to play, etc., etc. So I go through that process, but you know, I try to take it in a sense a day at a time and really see how I feel. I don't have any pressure or no one is forcing me to play, you know. I do it because I really want to, and because I still can. I still can play as a top 10, top 5 player. So let's see what the future brings.
Alors Atrad, je crois que d'abord que j'ai pris une bonne fessée, et ça il le disait qu'un petit sourire, comme quoi, bon, il y a un côté fair play chez lui qui est admirable. Donc je crois que j'ai pris une bonne fessée. Bien sûr, il y a toujours cette question de savoir jusqu'où tu veux aller, de quelle manière tu veux jouer, etc., etc. Je suis en pleine réflexion. Mais j'essaie de prendre les choses en quelque sorte au jour le jour pour voir comment je me sens vraiment. Je ne subis aucune pression et personne ne me force à jouer. Je le fais parce que j'en ai vraiment envie et parce que j'en suis encore capable. Je peux encore jouer, je le prouve, niveau top 5. Et voyons ce que l'avenir me réserve. Il a raison. Quand on voit son match contre Félix Auger-Aliassime, il joue top 5, bien sûr. Maintenant, l'autre aspect intéressant de sa conf, c'est qu'il l'a souligné, il termine le tournoi pas blessé. Et ça, c'est souvent après coup qu'on apprend les choses. Il a révélé quand même à la presse internationale que ça faisait 2 ans qu'il avait des pépins physiques en plein grand chelem, notamment l'an passé. Il dit, mais me parlez pas de la demi de l'an passé contre Sinner, j'étais blessé. Je m'étais blessé en quart. Paf, il a mis tout le monde KO. Et c'est vrai qu'il a eu pas mal de petits soucis. Maintenant, là, il était satisfait. Il a rendu hommage à son équipe qui a su le préparer. Il a admis que... il avait toujours la flamme, oui, mais que ça devenait pour lui de plus en plus dur. Et là, on parle du travail invisible, à savoir la partie immergée de l'iceberg. C'est le travail en amont pour préparer des chelems, parce que tu ne te présentes pas comme ça en claquant des doigts. C'est beaucoup de travail derrière, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup peut-être de vomissement, parce que si tu veux être fiable pendant 15 jours, tenir la cadence... ça veut dire qu'il faut t'entraîner comme un chien. Et ça, Djokovic l'a reconnu. Il a de plus en plus de mal à le supporter. Est-ce que c'est parce que c'est une sorte d'usure mentale, que ça devient de plus en plus dur, qu'il aimerait passer à autre chose, pouvoir s'occuper de ses enfants? Ou est-ce que c'est parce que le physique a de plus en plus de mal à répondre? Là, j'avoue que j'ai une petite hésitation. Mais en tout cas, sa conf était parfaite. Et je suis sûr qu'on le reverra encore l'an prochain à Wim. En attendant, il va se reposer. Et on le reverra à l'US Open, c'est un tournoi qui lui réussit, c'est le dernier qu'il a remporté, vous le savez. Donc, dernier grand chelem, bien sûr. Il ne faut surtout pas l'enterrer. Conf de presse, donc, absolument passionnante. Tout le contraire de celle de Yannick Sinner, toujours sur la défensive, toujours avec les mêmes termes, toujours avec la même prudence. C'est un peu usant à la fin. Alors effectivement, il a raison, il ne va pas fanfaronner. Il sait qu'il est le favori de la finale, parce que les journalistes lui ont rappelé. Il a un ascendant sur Zverev qui est incontestable. Il a gagné les 9 derniers matchs, tout simplement. Et ça, dans les têtes de l'Allemand, ça doit être horrible à vivre. La dernière fois que Zverev a battu Sinner, c'était à l'US Open 2023, en 8e de finale, victoire en 5. Après, la roue a tourné. Il y a eu le match à Cincy en 2024, une demi, 7-6 au 3e. Ensuite, bon, j'en ai parlé, la finale de l'Open d'Australie, où là c'est Sinner qui avait été le patron, hein, 6-3, 7-6, 6-3. Ensuite il s'était joué 3 fois à l'automne, Vienne, la Défense Arena et le Masters en phase de poule, victoire à chaque fois de Sinner. Et puis cette année ils sont joués 4 fois, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Et là c'était 4, j'allais dire un gros mot, 4 matchs à sens unique quasiment. Comment Zverev peut s'en sortir sur gazon? Déjà, il faudra qu'il serve l'acier. Mais si Sinner est dans les mêmes dispositions physiques et mentales de tueur, entre guillemets, qu'il l'a été cet après-midi, je vois pas comment Zverev peut s'en sortir, je vous le dis franchement. Ou alors, bon, de toute façon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Ou alors, il y a 3 tie-breaks, Zverev s'en sort, mais... mais franchement, et c'est vrai, c'est là qu'on constate les qualités de Sinner et son passé de skieur. Vous savez qu'il était très bon au ski quand il était jeune, c'est un skieur magnifique. Et pour jouer sur herbe, j'ai l'impression que ça l'aide énormément d'avoir été un grand skieur, parce qu'il est bas sur ses jambes. C'est un des rares mecs qui est capable de glisser et de se rétablir en une fraction de seconde. Et c'est vraiment admirable. Ce que ne sait pas faire encore Zverev, parce que... voilà, pour lui, c'est une surface un peu hostile, même si bon, il a souvent brillé dans les tours en Allemagne, à Halle, Stuttgart, mais à Wimbledon, il n'y arrivait pas. Bon là, la donnée a changé. Il a quand même bénéficié de circonstances très favorables. D'abord, l'absence d'Alcaraz, parce qu'il aurait très bien pu le jouer en demi. Et puis, il a eu un tableau quand même assez simple. Voilà. À l'exception de son premier tour contre Blox, ou pas. Pareil, parce que le gazon était tout frais et que c'est super dur de bouger, de se déplacer. À l'exception de ce match, il a cruisé, comme on dit. Et en plus, il a eu la veine de bénéficier de la blessure de Fritz, qui a été l'ombre de lui-même en quart de finale, parce qu'il s'est refait mal au genou. Donc voilà, les données, vous les connaissez. Faites vos jeux. Je n'ai même pas regardé les cotes, mais je pense que Sinner est largement favori. Et c'est logique. Mais Sinner a besoin de gagner. Parce qu'il ne peut pas se permettre un troisième échec en 2026. Il y a eu la déroute contre Djokovic. Je parle de déroute parce que personne n'avait vu venir une défaite en 5 contre Djokovic. Il y a eu le coup de chaud contre Cerundolo à Roland. Non, là, il n'a plus d'excuses. Il faut soulever le trophée parce qu'il faut réduire l'écart avec Alcaraz qui est au stand actuellement. Donc il ne peut pas se permettre de passer à côté. Voilà. On va réfléchir à tout cela et je vous dis à bientôt. Ciao.